Quand vous étiez enfant, vous avez sûrement eu comme moi un de ces objets vert pâle, un jouet ou une carte. Vous le mettez à la lumière et puis après il brille. Ces objets fluorescents. Alors vous les gardez la nuit et vous n'avez pas besoin de lampe. Vous pouvez vous diriger avec ça parce qu'ils ont emmagasiné de la lumière, on pourrait dire. Vous voyez ce que je veux dire? Cette histoire-là est arrivée aussi aux disciples de Jésus. Où un jour, leur a été donnée la possibilité d'emmagasiner beaucoup de lumière. Mais ils ne l'ont pas fait, et quand ils se sont retrouvés dans les ténèbres, ils ne savaient plus où ils en étaient. C'est l'histoire de Pierre, de Jacques et de Jean. Après une journée longue, active avec Jésus, ils étaient fatigués. Jésus avait été avec la foule, Jésus avait enseigné, Jésus avait prêché, Jésus avait guéri, Jésus avait encouragé. Et à la fin de la journée, ils étaient fatigués. Et Jésus leur dit, « Venez avec moi, nous allons monter sur la montagne. » C'était vraiment pas le moment, à la fin de la journée. Il va laisser les autres disciples en bas de la montagne. Et vous connaissez cette histoire qui est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 17. Jésus va monter au sommet de cette montagne avec les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il monte avec Pierre, Jacques et Jean pour prier au sommet de la montagne. Et je peux facilement imaginer les trois disciples qui se disent « Mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas prier en bas de la montagne plutôt ? Ça irait tout aussi bien à cette heure de la journée. Est-ce qu'il faut vraiment monter en haut de la montagne pour aller prier maintenant ?» Arrivé en haut, Jésus les invite à prier. Et lui-même va prier. Et que vont faire les disciples? Après une longue journée et après une longue marche pour monter en haut de la montagne, ils ont du mal à prier les yeux fermés sans s'endormir. Jésus avait dit quelques jours avant quelque chose d'étrange. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 9 et au verset 27, il nous est rapporté cette parole de Jésus qui s'est réalisée en fait ce jour-là. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 27, dit ceci. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Jésus annonce sa deuxième venue. Il en parle à ses disciples. Mais Jésus sait bien que ses disciples ont besoin maintenant de quelque chose de spécial. Comme si vous voulez emmagasiner beaucoup de lumière pour qu'au jour où ils seront dans les ténèbres, ils sachent où ils en sont. Dans le livre Jésus-Christ, je trouve ce paragraphe qui explique clairement la situation. Jésus demande à son Père que les disciples puissent assister à une manifestation de sa divinité qui les soutiendra à l'heure de son agonie suprême en leur apportant la certitude qu'il est le Fils de Dieu et que sa mort révoltante fait partie du plan de la rédemption. Ils ont besoin de ce moment particulier. Ils auraient besoin de s'en souvenir quelque temps plus tard, quand Jésus sera arrêté et traité comme le pire des individus que la terre ait jamais porté. Jésus savait qu'ils en avaient besoin. Et c'est la raison pour laquelle il les a invités à monter sur la montagne. Mais les disciples s'endorment en priant. Je pense à ce moment un peu plus tard dans l'histoire de Jésus, où juste avant la croix, à Gethsémané, Jésus a aussi invité les disciples à prier, et là aussi les disciples, curieusement, avaient terriblement sommeil. Jésus maintenant est prêt à leur montrer en miniature ce que sera sa gloire lors de sa deuxième venue. Et curieusement, là encore, ils ont terriblement sommeil, et ils s'endorment. C'est curieux quand même. C'est curieux de penser que, juste avant les moments les plus importants de son ministère, Jésus invite ses disciples à prier et c'est justement le moment où ils s'endorment. Est-ce possible que ce soit là une image de l'Église à la fin des temps, de cette Église de Laodicée qui est définie dans le livre de l'Apocalypse comme étant tiède par définition? Est-ce que l'Église de la fin des temps ressemble à ses disciples qui, juste avant un moment important, s'endorment, alors que Jésus, dans le ciel, prie et intercède pour eux juste avant son retour pour clore le jugement dans le ciel. Est-ce possible? Le texte de l'évangile de Luc, au chapitre 9, nous dit que pendant que Jésus priait et que ses disciples somnolaient, quelque chose s'est passé. Au verset 29, il est dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Élie et Moïse apparaissent à Jésus. Ce n'est pas surprenant parce que nous comprenons que tous les deux sont au ciel à ce moment-là. Jésus est encouragé par Moïse, celui qui a reçu la loi, et Élie, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes. C'est ainsi que toutes les Écritures sont résumées. D'ailleurs, Jésus va dire, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Et lorsque Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, il nous est dit dans Luc chapitre 24, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Moïse, Élie, la loi et les prophètes. D'ailleurs, la parole de Dieu est souvent présentée par l'intermédiaire de deux images, de deux témoins. Par exemple, les deux pierres, les deux tables de pierre, où Dieu a écrit les 10 commandements. Ou bien encore, dans l'Épître aux Hébreux, cette épée à double tranchant, dont l'apôtre Paul parle. Ou dans l'Apocalypse, les deux lampes et les deux oliviers, l'Ancien, le Nouveau Testament. Le chiffre 2 est souvent utilisé en référence avec la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, un principe est donné. Au chapitre 19 et au verset 15, il est écrit « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. » 2 est donc le chiffre nécessaire pour qu'un témoignage soit vrai. Et c'est ce que nous avons en rapport avec les Écritures. 2, pour montrer à quel point le témoignage de la parole de Dieu est véridique. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, nous retrouvons les deux témoins que Jésus rencontre sur la montagne de la Transfiguration. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, je vous propose de suivre avec moi la lecture à partir du verset 3. Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Vous retrouvez ici Élie et Moïse. Élie qui avait prié pour qu'il ne pleuve plus. Moïse qui avait prié pour transformer l'eau en sang. Vous retrouvez ici dans l'Apocalypse les deux témoins qui viennent et rencontrent Jésus sur la montagne de la Transfiguration. La loi de Dieu et le témoignage prophétique de Jésus exprimé aussi par Élie. Jésus est sur le point de donner aux disciples le témoignage le plus fort et le plus puissant, indiquant l'origine divine de sa mission et de sa personne. Élie et Moïse représentent la parole de Dieu dans sa totalité, cette parole prophétique, qui se réalise d'ailleurs entièrement en Jésus. Moïse et Élie sont depuis des centaines d'années au ciel. Ils ont de la chance, eux, hein? On aimerait bien avoir cette place-là aussi. Ça ne saurait tarder. Mais ils n'étaient pas au ciel grâce à leur mérite à eux. Ils n'avaient rien fait d'extraordinaire qui mérite cela. Vous vous souvenez d'ailleurs dans le livre de Jude, il nous est raconté que lorsque Jésus veut ressusciter Moïse et le prendre au ciel, le diable a protesté. Il a contesté. Il voulait empêcher Jésus de prendre Moïse au ciel. Parce que le sacrifice par lequel Moïse et tous les êtres humains allaient être sauvés n'avait pas encore été accompli. D'autorité, Moïse sera pris au ciel pour montrer à l'avance que la mission de Jésus et son sacrifice sera un plein succès pour tous ceux qui l'accepteront comme leur sauveur. Ainsi, je peux imaginer, faute d'avoir le récit entier de cette conversation, je peux imaginer ce que Élie et Moïse sont venus dire à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Ce sont deux hommes qui sont au ciel déjà, grâce à un sacrifice que Jésus va faire. Et Dieu a bien choisi d'envoyer ces deux hommes dire à Jésus, « Mais regarde, nous sommes déjà au ciel. Nous représentons tous ceux qui seront sauvés de toute l'histoire. » Et nous sommes déjà au ciel parce que le sacrifice que tu vas faire sera un succès total. Élie et Moïse étaient très bien placés pour encourager Jésus et lui dire, « Vas-y, nous représentons toute l'humanité que tu vas sauver dans quelques heures, dans quelques jours, par ton sacrifice. » Les deux témoins, l'un à droite et à gauche de Jésus, pour le soutenir. Ça me fait penser à un événement de l'Ancien Testament qui est raconté dans le livre de l'Exode au chapitre 17, où Moïse, lui aussi, a présidé une grande bataille contre les Amalécites. Et vous vous souvenez que lorsque Moïse avait les bras levés, Israël gagnait. Lorsqu'il avait les bras baissés, Israël perdait. Il a donc fallu que Moïse garde les bras levés pendant tout le temps de la bataille. Et vous vous souvenez que Aaron et Hur sont venus l'un de chaque côté pour lui soutenir les bras de façon à ce que Israël ait la victoire. D'ailleurs, à la croix, Jésus va encore avoir des témoins avec lui. Il y aura deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et ces deux témoins vont représenter tous les pécheurs que Jésus vient pour sauver. Ceux qui ne vont pas accepter Jésus comme leur sauveur. Et puis de l'autre côté, ceux qui finalement vont reconnaître que Jésus est leur sauveur. Sur la montagne de la Transfiguration, Jésus aura encore deux témoins à ses côtés. Moïse et Élie. Ils représentent tous ceux que Jésus vient chercher lors de sa seconde venue. Tous les sauvés. Soit qu'ils aient dû s'endormir dans le sommeil de la mort comme Moïse, soit qu'ils aient été vivants lorsque Jésus revient et qu'ils soient emmenés directement au ciel, comme Élie, les témoins. Témoins dans sa mort, témoins dans sa deuxième venue. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est rapporté qu'à la fin de cette période de 1260 ans de persécution, les deux témoins vont continuer leur travail. Nous comprenons que à la fin des temps, les fidèles, ceux qui se sont attachés au Seigneur jusqu'au bout, ont compris qu'ils ont une mission de prêtre dans le monde, mais qu'ils ont aussi une mission de prophète dans le monde. Ce livre de l'Apocalypse nous fait comprendre qu'outre cette mission de prêtre, de prophète, ils ont aussi une mission de témoin de Jésus-Christ à la fin des temps. Curieusement, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, introduit ces deux témoins et parle de leur activité à la fin de cette période. Le chapitre précédent se termine avec une indication précise de ce que ces témoins devront faire. Apocalypse, chapitre 10, le verset 11, dit encore, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Le rôle des deux témoins est de continuer la proclamation. Dans le chapitre 10, Jean est invité à manger un petit livre, le petit livre scellé que nous avons dans l'Ancien Testament et qui est le livre de Daniel. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'à l'approche de la fin des temps, les prophéties soient nécessaires au monde pour qu'il se prépare à la deuxième venue de Jésus. Et ce petit livre qui maintenant est ouvert, ce livre prophétique, se trouve entre les mains des témoins de Jésus-Christ aujourd'hui pour les donner au monde. La parole prophétique, la parole de Dieu dans sa totalité. Et s'il est un temps dans l'histoire où la prédication totale de la parole de Dieu est nécessaire, c'est bien maintenant, alors que Jésus se prépare à revenir. D'ailleurs, le prophète Ésaïe avait reçu de Dieu cette indication selon laquelle ce témoignage allait être scellé parmi ses disciples pour accomplir cette mission à la fin des temps. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 13. Il est écrit ceci. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Vous avez remarqué, le prophète rappelle que Dieu va être un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, soit pour ceux qui le recevront et qui trouveront en lui leur refuge, soit pour ceux qui, à cause de leur cœur dur, tomberont. Scelle cette vision parmi mes disciples. C'est le rôle précisément des témoins de Jésus-Christ d'apporter cette révélation que Dieu leur a donnée, non seulement écrite, mais aussi dans leur cœur. Je pense que Pierre, Jacques et Jean, dans les années qui ont suivi, se sont souvenus avec des sentiments très mélangés de cette expérience de la transfiguration. Ils auront l'impression d'avoir manqué une partie du spectacle parce qu'ils dormaient. Plusieurs d'ailleurs se souviendront avoir dormi au mauvais moment. Mais l'apôtre Pierre, bien plus tard, sert dans son cœur une assurance si ferme qu'il la transmet aux autres. Et je vous propose de relire ce passage dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, où il dit ceci au verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Nous l'avons vu, nous avons entendu. Et dans les Actes, les apôtres disent « Comment pourrions-nous nous taire sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu ?» Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, c'est quelqu'un qui était là. Je ne peux pas être témoin de Jésus si je viens à l'église simplement pour suivre mes parents ou pour leur faire plaisir. Je ne peux pas être un témoin non plus si je viens simplement pour rencontrer des gens sympas ou parce que le pasteur me plaît ou que je ne viens pas parce qu'il ne me plaît pas. Je ne peux pas être non plus un témoin si j'ai simplement accepté un ensemble de doctrines qui me semble plus logique dans cette église que dans une autre. Je ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ si ma vie quotidienne n'a pas une organisation des priorités qui dit clairement que j'attends avec impatience de vivre l'éternité, mais pas sur cette terre. Je ne peux pas être un témoin si je pense que les témoins ce sont les autres. Et permettez cette expression, je ne peux pas être un témoin si je dors pendant le show, comme les disciples. Si je dors pendant le show, au jour des ténèbres, je ne saurai plus où est la lumière. Est-ce que vous ne trouvez pas surprenant quand même que les disciples s'endorment toujours au moment important de la vie de Jésus? Il vous est probablement arrivé, à vous aussi, d'avoir une expérience du sommet de la montagne avec Dieu. Une expérience particulière où Dieu a agi à votre égard d'une façon claire et nette. une situation qui vous donnait envie de voler au-dessus du sol, de crier Alléluia jour et nuit, de remercier le Seigneur, vous étiez déjà presque au ciel, fantastique, extraordinaire. Et quelques jours plus tard, vous l'aviez oublié, et vous vous êtes traîné aussi la tête basse en vous demandant, est-ce que le Seigneur m'a oublié ? Je crois que le diable a le don de nous rendre amnésiques par rapport aux expériences passées avec Dieu. D'ailleurs, donnez-lui 5 minutes de votre attention et il sera capable de vous faire oublier des années de marche avec Dieu. Jésus savait que ses disciples d'aujourd'hui, vous et moi, seraient très semblables à la bande de 12 disciples avec qui il était pendant 3 années et demie sur la terre. Et je pense que le Seigneur savait à qui il avait affaire à cette époque-là, et il sait qu'il a affaire aujourd'hui à des disciples de la même nature. Des disciples qui ont tendance à s'endormir juste avant les moments les plus importants de son ministère. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces gens qui un jour attendaient le retour de Jésus, ils en étaient sûrs. Aucun ne s'est endormi. Et cependant, aujourd'hui, nous sommes encore 150 ans et plus près du retour de Jésus. Et je reconnais que nous avons cette faculté de nous endormir beaucoup plus facilement que ceux qui étaient convaincus que Jésus allait revenir de leur vivant. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même invite ses disciples. Ses disciples de son temps et les disciples d'aujourd'hui, d'une façon particulière. Regardez avec moi ce passage dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13. Il est dit au verset 35. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. C'est l'expérience des disciples de ce temps-là, pris par surprise par le symbole de sa deuxième venue sur le mont de la Transfiguration, qui ont été pris par surprise par la croix alors que Jésus les avait avertis et invités à veiller avec eux. Est-ce que ce sera l'expérience aussi des disciples de Jésus à la fin des temps? Nous annonçons son retour, nous prêchons l'Évangile. Nous voulons le partager aux autres, mais est-ce que nous serons aussi endormis, assoupis, au moment le plus solennel de l'histoire, lorsque Jésus est à la veille de revenir? Sur le mont de la Transfiguration, il y avait là 7 personnes. 3 venaient du ciel, Moïse, Élie, et Dieu le Père s'est manifesté dans la nuée. Il a même parlé. Il a donné témoignage à Jésus. 3 personnes venaient du ciel et 3 personnes venaient de la terre, Pierre, Jacques et Jean. La 7e personne, c'est Jésus qui est là au milieu. Et un jour, Jésus va revenir. C'est ce qu'il a voulu montrer dans ce moment particulier sur la montagne de la Transfiguration. Il va revenir pour prendre avec lui ceux qui sont sur la terre et les rassembler avec ceux qui sont dans le ciel pour ne plus faire qu'une seule et grande famille. Dans sa grâce, le Seigneur a montré à ses disciples en miniature ce que serait sa gloire lorsqu'il reviendrait. Et nous aurons la chance de ne pas voir en miniature sa gloire, mais de la voir en vrai. Et ce que Jésus disait à ses disciples, il le dit à tous. Veillez.